carnet de campagne. Bonjour. Deuxième journée dans le département de l'Eure, département de l'ex-Haute-Normandie, maintenant intégré à la Grande-Normandie. Et petite halte tout de suite à l'Aye de Routot. Il faut bien chercher. 270 habitants, mais un concentré de biodiversité remarquable à cet endroit. L'image des ifs millénaires encore sur pied en bordure de forêt de Bretonne et dans le parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande. C'est ici qu'Élodie, correspondante des carnets, va ouvrir début 2019 sa cabane heureuse, comme elle l'appelle, pour participer au tourisme responsable dans le département. Ces gîtes sont éco-construits depuis les matériaux jusqu'au traitement des eaux usées et ils serviront de support à l'adoption de gestes écologiques applicables au quotidien dans un cadre totalement insolite. C'est un peu mystérieux, mais les mystères de ce courrier se dévoilent sur le site tout neuf de la cabane heureuse. C'est gîtes-écologique-normandie.fr. Premiers invités de ces carnets du jour, Jean-Michel Monod, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, initiateur d'une création théâtrale coup de torchon pour promouvoir cette égalité, et Sarah Dinan pour dresser le bilan de 2 ans d'échanges européens pour des collégiens eurois dans le cadre d'un programme international Erasmus+.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Jean-Michel Monod, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Un bourguignon en Normandie, nul n'est parfait. Non, allez, c'est une plaisanterie. Jean-Michel, vous êtes l'initiateur avec le Théâtre des Coteaux d'un spectacle qui est très très original. Alors vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, ça va expliquer le sujet qui nous relie. Et puis vous êtes fondateur d'All Inclusive, alors qui est votre entreprise, je précise, accélérateur de performance par l'inclusion. Vous pouvez m'en dire 2 mots?
Oui, en fait, mon métier c'est d'accompagner les entreprises pour faire que la diversité soit pas un problème, mais soit une source de bien-être, de performance, en disant, si on veut que profiter de la diversité, faut déjà la respecter, faut la valoriser. Donc, faut créer un climat pour ça, c'est changer son regard sur les autres.
Mmh. Et comment vous arrivez à convaincre les entrepreneurs sur cette diversité, cette idée d'égalité de partage?
Alors, j'ai fait souvent l'erreur de croire qu'il suffisait de leur montrer des chiffres.
Oui.
De montrer qu'on avait plus de performance économique par l'inclusion. En fait, je pense que les dirigeants, les chefs d'entreprise, ils sont comme toutes les femmes et les hommes classiques. Ils ont besoin de ressentir les choses.
Mmh.
Et que la plupart d'entre nous ne se réveillent pas le matin en disant « je vais discriminer un tel ou une telle ». Mais souvent, on ne sait pas. Et donc, il faut éveiller les consciences, sensibiliser et faire vivre des expériences. Mmh. Donc, toucher plus au cœur ou aux tripes que juste au cerveau ou au carnet de chèques.
Mmh. Comment ne plus faire de différence dans cette diversité? C'est le sujet de coup de torchon et en particulier sur le sexisme ambiant qui existe toujours. Vous partez de chiffres, hein. Par exemple, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes de 27% en 2016. Les femmes ont consacré 3h26 à leurs tâches ménagères contre 2h pour les hommes. 84 000 femmes sont victimes de viols chaque année en France. Tous ces chiffres que l'on répète sont toujours inquiétants. Coup de torchon, c'est une manière d'éveiller les consciences.
C'est exactement ça. Ces chiffres, c'est vrai qu'on les entend régulièrement au travers de l'actualité qui nous fait mal. Mais il faut pouvoir la ressentir. Et le spectacle, lui, met en scène ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'il permet à des moments très drôles de voir des choses sur, par exemple, l'écart de prise en compte des tâches ménagères entre les hommes et les femmes à la maison. Ou alors pas drôle du tout quand on parle des violences faites aux femmes ou du viol, de vivre la situation. Et les hommes en ressortent très touchés. Et c'est une invitation pour eux aussi à prendre la parole, à agir et surtout pas rester indifférent. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence sur ce sujet-là.
Mmh. Est-ce que les clichés, les stéréotypes, les idées préconçues sont plus nombreux en milieu rural qu'en espace urbain, puisque vous sillonnez les routes du département et de la région?
Oui, alors ça, il n'y a pas de différence du tout. En fait, les stéréotypes qu'on a, ils sont les mêmes parce qu'ils sont véhiculés par notre éducation, par notre famille, par ce qu'on entend tout autour de nous, les médias, autres. On participe tous, chacun à notre échelle, à cette diffusion de stéréotypes. Donc, je ne vois pas d'écart là-dessus, pas du tout.
Alors, coup de torchon au pluriel, hein, pour ce spectacle un peu particulier, monté avec, donc, je disais, le Théâtre des Coteaux et Gérard Marbéan, qui est metteur en scène, a obtenu un label que je ne connaissais pas, Sexisme, pas notre genre.
Oui, c'est un label qui était donné par l'ancien gouvernement, là, qu'on a été fiers de pouvoir obtenir, parce qu'en fait, on était une initiative très originale. Il y a peu de choses sur ce sujet du sexisme en particulier. Et pour nous, ça a été un moyen d'afficher une légitimité en disant, ben, nous aussi, dans notre province, dans notre région, en Normandie, et puis partout, on peut prendre la parole et avoir un impact là-dessus, et être reconnu, pour le coup, par l'État.
Et un débat fait suite au spectacle.
Systématiquement. Et ça, c'est vraiment... On s'est dit, on ne veut pas laisser les gens partir de la salle de spectacle sans avoir l'occasion d'exprimer ce qu'ils ont ressenti, puisque ça peut être assez fort. Il y a des choses drôles quand on met en scène des publicités sexistes. Ça chatouille un peu, mais c'est drôle. Mais il y a des choses qui sont très, très marquantes. Et quand dans les débats derrière, on a des gens qui partagent leur expérience sur des violences ou sur le viol, ça mérite vraiment de sortir et d'avoir un échange. Et c'est un moment que les comédiennes attendent avec grande impatience aussi.
Et
une grosse participation du public.
Et le spectacle continue à tourner.
Le spectacle continue à tourner depuis un an. On est tombé, la première est tombée au moment de l'affaire Weinstein. On s'attendait à faire 5 ou 10 représentations. On en est à une trentaine. Et on a un programme qui est en train de se compléter encore là pour l'année 2019. Parce que le sujet, il passionne dans les villes, bien sûr, mais dans les entreprises. Dans les écoles aussi, on va dans les collèges et dans les lycées. Et c'est aussi là des moments d'avoir des actions dans la durée, puisqu'on va dans les classes après.
Le spectacle s'intitule Coup de torchon. Le site, c'est coup-de-torchon.fr, la page Facebook. Vous pourrez avoir les dates comme ça. Et déjà, un avant-goût de ce spectacle débat, qui n'est pas un spectacle ordinaire, comme vous l'avez compris. Merci Jean-Michel.
Merci Philippe, bonne journée.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Michel Le, comme la chanson Michel Mabel, témoigne par son courrier de la belle vitalité justement d'une épicerie sociale née à Val-de-Reuil en 2007. Le rôle de cette structure est bien évidemment d'apporter une aide alimentaire aux personnes et familles qui rencontrent des difficultés, mais il est aussi d'ouvrir des ateliers dits de proximité sociale afin d'aborder des notions liées à l'équilibre alimentaire et budgétaire. Ces ateliers très fréquentés et très variés couvrent autant l'apprentissage de la cuisine anti-gaspi que celui du jardinage ou du bricolage. 11 ans après sa création, l'épicerie qui se fait appeler Épireuil a été retenue par le jury territorial normand de la Fondation SNCF pour financer un programme d'épicerie itinérante. Ce prix, comme d'autres distinctions récentes, vont lui permettre d'acquérir un véhicule réfrigéré afin de déplacer l'épicerie solidaire dans les campagnes environnantes. Ce type de structure agréée solidaire d'utilité sociale, entreprise ESUS, depuis mars dernier, a bénéficié également d'un supplément de subvention. Et à ce titre, je réponds à quelques courriers, rares heureusement, mais qui s'inquiètent quand ils ne s'indignent pas de la dépendance des associations aux subventions et à la fameuse expression « à nos impôts ». Alors, quelles que soient les sources d'aide publique ou privée à ces entreprises solidaires, sachez quand même qu'elles génèrent entre le triple et le quintuple de ce qu'elles reçoivent. Comme l'a très bien analysé le collectif Recherche et Solidarité, 1 euro de subvention attribué à une association, entre autres de bénévoles, c'est les plus nombreuses, produit l'équivalent de 3 à 5 euros de travail et de services rendus, association épireuil.fr, et puis Recherche et Solidarité, association très intéressante pour les diagnostics qu'elle publie. Vous trouvez le lien aussi à nos pages d'émission. Sarah Dinan, bonjour.
Bonjour.
Sarah, il y a quelques mois, cette année, s'est terminée une expérience de 2 ans, très originale. C'est un projet international Erasmus+, avec le collège Jean-Claude Dauphin de Nonancourt, et puis un établissement suédois, un établissement espagnol. Pour résumer, avant d'entrer dans le détail, aujourd'hui, nos élus tentent de donner de nouvelles missions à l'Europe. Les plus jeunes, eux, ont pratiqué l'Europe au quotidien. Et c'était une expérience de l'Europe au quotidien.
Oui, en effet. On peut vraiment dire ça. On a commencé, une fois qu'on avait nos partenaires et on avait imaginé notre projet, en effet, les premières démarches étaient justement de découvrir ce que c'est l'Union européenne, les différents pays et évidemment où se situaient nos partenaires, la Suède tout au nord et l'Espagne tout au sud et nous au milieu. Donc effectivement, nos élèves ont été vraiment marqués par cette expérience européenne.
Ouais. Mais alors, donc il y avait une écriture du projet au préalable, avant de passer à l'expérimentation. Qu'est-ce qui a mobilisé les collégiens autour de ce projet ?
Eh bien, dans un premier temps, c'est surtout les enseignants qui avaient été mobilisés autour du projet. Et ensuite, effectivement, il fallait que les élèves adhèrent. Et donc, on est parti de constats dans chaque établissement partenaire pour imaginer un projet qui allait forcément leur plaire aux élèves. Mmh, sinon, ça n'avait aucun sens. Et donc, on a mis en place beaucoup de choses, notamment par le biais de jeux et par le biais des outils numériques, pour essayer de faire en sorte qu'un maximum d'élèves s'intéressent au projet, s'investissent dans le projet et aient envie de porter le projet avec nous.
Mmh. Et qu'est-ce qui faisait donc le contenu de ce projet ?
Alors, le contenu du projet était basé sur l'apprentissage de l'autre, la découverte de l'autre, sortir de sa petite bulle, j'ai envie de dire, parfois très tournée sur soi-même, pour aller découvrir l'autre au-delà du pays de France.
Oui.
Et donc, c'était amener les élèves à poser des questions, à s'interroger sur est-ce qu'en tant que citoyen européen, on est tous face au même problème ? Est-ce que la jeunesse en Suède et la jeunesse en Espagne se préoccupent des mêmes problèmes ? Est-ce que on utilise tous les ressources qu'on a à notre disposition dans les établissements scolaires de la même manière ? Est-ce qu'on vit à l'école de la même façon ?
Mmh.
Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donc en fait, c'était amener chaque participant à se questionner et aller trouver les réponses à ces questions.
Il y a eu 3 voyages, hein, en Suède en mai 2017, en Espagne en novembre 2017, et puis un rassemblement des 3 collèges en France, chez vous, en mai de cette année.
Oui.
Les liens sont conservés entre les collégiens ?
Oui, grâce surtout aux réseaux sociaux. Le numérique aujourd'hui facilite énormément cela. À mon époque, j'avais participé à des échanges en tant qu'élève. Si on n'avait pas la volonté de sortir le stylo et le papier pour faire une petite carte, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup sont restés encore en contact parce que c'est facile de partager une photo, partager un petit message, un coucou par le biais des réseaux. Oui.
Ça a été une petite révolution par la suite dans le collège, dans les comportements.
Eh bien oui, on avait espéré que ça impacte sur le climat scolaire de l'établissement. On n'avait pas imaginé à quel point ça allait pouvoir le faire en réalité.
Mmh.
La semaine où effectivement on avait des 2 établissements partenaires chez nous, cela voulait dire qu'on ajoutait une classe et demie en plus dans l'établissement, qui est déjà un grand établissement avec beaucoup d'élèves. On craignait que cela soit compliqué à gérer. Et en fait, on a mis en place différentes techniques pour qu'un maximum d'élèves chez nous soient impliqués. Et finalement, d'un point de vue, par exemple, du bureau de la vie scolaire, les personnes qui gèrent les élèves quand ils ne sont pas en classe, très simplement, à la fin, ils nous ont dit que c'était la semaine la plus calme pour eux en vie scolaire, cette semaine-là, où tous les élèves étaient tournés vers les autres.
Mmh.
Les élèves étaient soucieux de vouloir bien présenter une belle image de l'établissement et aller vers l'autre, s'ouvrir à l'autre. Donc ça a eu un impact très important cette semaine-là. Et on essaie aujourd'hui de continuer cet élan. Beaucoup d'enseignants qui ont été impliqués dans le projet essaient aujourd'hui de réinjecter ce qu'ils ont appris grâce à ce projet, à travers ce projet, dans différentes actions qui continuent cette année.
Il y a eu des productions hors d'une culture box, de jeux de société. Et si vous voulez revenir à ce voyage européen assez merveilleux pour ces jeunes, on l'imagine, avec toutes les contributions sous forme de vidéos, de photos. Il y a le blog Jean-Claude Dauphin, Erasmus+, blog.wordpress.com. Vous allez trouver l'adresse à nos pages d'émission pour revenir sur cette expérience qui est très très belle et qui permet de mieux vivre ensemble en tant que citoyen européen et faire passer ça auprès des jeunes. Je trouve ça assez chouette.
C'était ça l'idée, oui.
Ouais, exactement. Merci Sarah.
Merci à vous.
Ce jeudi, France Inter s'installe à Strasbourg à l'occasion des marchés de Noël. Vous avez rendez-vous à la salle du Barabli, 17 place de Breuil. Ça commencera à 13h avec le journal en direct de Bruno Duvic. Vous pourrez juger sur place et sur pièce du bel homme. Et ensuite, le jeu des 1000 euros. Attention, sélection à midi pile avec Nicolas Stoufflet. L'enregistrement de 17h, vous les femmes, Daniel Morin. Et à 18h30, on va déguster François-Régis Gaudry, c'est toute la journée de jeudi à Strasbourg.